proposer toutes les questions qui vous intéresseraient de voir traitées durant cette soirée. Ces questions ensuite seront soumises au vote. Et la question qui remportera le plus de suffrages sera celle qui sera débattue ce soir lors du Café Philo. Alors, vous pouvez proposer autant de thématiques ou de questions que vous souhaitez. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous pouvez voter plusieurs fois. Et c'est exclusivement si on a une logique d'égalité, il me semble, hein, Marie-France, qu'un second vote est mis en route. À une voix près. Voilà. Et là, par contre, si on fait un second vote, vous ne pourrez voter qu'une fois. Voilà. Ça nous permettra de trancher et de décider. Donc, du coup, la parole est à vous. Et si vous avez des propositions de questions, de sujets, de thématiques à faire, voilà, vous pouvez le faire. Oui, il y a des micros qui circulent, hein. Logiquement il y en a deux, donc n'hésitez pas, levez la main et on fait circuler le micro. Oui.
Lors de la dernière conférence...
Est-ce qu'il est allumé votre micro? C'est pas sûr. Non, il n'est pas allumé. Voilà. Ah, logiquement, je pense que ça marche. On sait.
Lors de la dernière conférence,
oui,
qui était intitulée La non-violence et la justice climatique,
oui,
je me suis gratté la tête au sujet de la justice climatique. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu un éclairage sur cette justice?
Mm-hmm.
J'ai vaguement cherché, j'ai vu que c'était une morale, une esthétique, peut-être aussi un comportement, mais ça me laisse assez dans le brouillard. Donc je ne sais pas comment formuler ma question.
Qu'est-ce que la justice climatique? D'accord, parfait. Une autre question? Un autre thème? Oui, madame?
Sur la peur, de la guerre,
on va vous... Voilà, allez-y.
Juste la peur.
Oui, parlez dedans.
La peur. Avoir peur de... au départ, les religions, l'enfer, enfin... Le pouvoir de la peur.
Très bon, très, très belle formulation. Le pouvoir de la peur. Oui. Mm-hmm. Oui, monsieur ?
La liberté d'obédience à l'heure actuelle.
La liberté d'obédience, la soumission en fait ?
C'est une soumission, ça peut être un choix. Mais qu'est-ce
ouais.
La liberté d'obédience à l'heure
actuelle. D'accord, ok. Qu'est-ce qui nous fait obéir ? On pourrait le formuler comme
choix,
ça. D'accord, ok. Donc, la liberté d'obédience, comment on pourrait formuler cette question?
Elle est bien formulée, ma question.
C'est-à-dire? La liberté d'obédience est-elle un choix?
Par exemple.
C'est ça? Oui. D'accord, ok. Oui.
Faut-il briser tous les tabous?
D'accord. Faut-il briser tous les tabous? Ok.
Nos colères sont-elles inévitables? Sont-elles indispensables?
D'accord. Nos colères sont-elles inévitables ou bien sont-elles indispensables? D'accord, ouais. Oui.
Suis-je vraiment ou suis-je seulement un constituant du contrat social? Ou comment être soi-même dans le contrat social?
Alors, ça fait peut-être deux questions, non? Je sais pas. La première, on peut la reformuler alors? Oui.
Donc suis-je vraiment ou suis-je vraiment seulement un constituant du contrat social ?
Suis-je vraiment ou seulement un constituant du contrat social ? Ok. Suis-je vraiment ou seulement un constituant du contrat social ? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, mademoiselle ?
J'ai une question, c'est... Est-ce qu'on toujours se sent seul, le sentiment d'être seul ? Est-ce qu'on doit profiter de ce sentiment ou on doit chercher le plaisir pour le contrôle ? C'est la question.
Alors, par rapport au sentiment de solitude, est-ce qu'on doit en fait apprécier ce sentiment, c'est ça ?
Oui.
Ou au contraire ?
On cherchait des activités pour contrôler le sentiment d'être seul.
Ouais, pour lutter contre le sentiment de solitude, on pourrait dire.
Oui. Est-ce que le sentiment, c'est pendant toute la vie ou juste une période ?
D'accord. Donc, sommes-nous nécessairement seuls ? Ça vous irait, ça ?
Oui, oui.
Hein ? Voilà. Sommes-nous nécessairement seuls ? D'accord. Ok. Ouais. C'est pas mal, hein ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça nous fait quand même combien de questions, Marie-France ?
Je viens de compter 7.
7, d'accord, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un a un autre désir ce soir ? Oui, madame ?
Je ne sais pas trop formuler ma question. Disons que l'eau, c'est très très précieux.
Mmh.
Je pense que nous ne nous en rendons pas suffisamment compte. Et
un beau jour, en fait, ça devient très, 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 très. Ouais, l'or blanc, hein, ce dont on parle. Je pense que ça rejoint quand même la question de la justice climatique, du coup, peut-être. Donc, ça serait, faut-il protéger nos ressources, ou on pourrait la formuler comme ça, la question, peut-être, hein ? Faut-il ou doit-on protéger nos ressources en eau ? Si on veut partir de cette question-là. Oui, d'accord. Faut-il protéger donc nos ressources en eau ? La question de l'or blanc. Oui. Ouais, ouais. C'est bon ? Le choix est large et vaste. Donc je vous propose de passer au vote. Marie-France, notre script...
Alors, le premier sujet, c'est qu'est-ce que la justice climatique ?
Voilà, qu'est-ce que la justice climatique ? Alors,
vous levez la main chaque fois que vous avez envie de traiter le sujet.
Et moi, je compte. Qui veut traiter ou qui aimerait traiter la question de la justice climatique ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Deuxième question, le pouvoir de la peur.
Le pouvoir de la peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Ensuite, la liberté d'obédience est-elle un choix ?
La liberté d'obédience est-elle un choix ? Qui veut traiter la question ? Voilà. Alors, peut-on savoir exactement ce que vous vouliez ou ce que vous entendez par obédience ? La liberté d'obédience ? La loi des religions, donc le fait de se soumettre, le fait d'adhérer. Exclusivement dans le domaine religieux, du coup ? Exclusivement dans le domaine de religieux ? D'accord. Donc, en fait, juste, ça serait le fait de suivre ou non la loi religieuse. Est-ce que ça, c'est volontaire ou non? Ça serait ça, la question. Voilà. Donc, y a-t-il un choix du religieux? Ça vous irait?
Ça revient à ce que vous avez proposé dernière.
Ouais. Ouais, c'est ça.
L'obédience, c'était un choix.
Voilà. Mm-mm. C'est ça. Donc, y a-t-il un choix du religieux? Mm. Et c'est pour ça que ça demande à être pensé, peut-être. Ouais, ça va peut-être venir interroger la laïcité, ouais. Ouais. Donc, qui serait intéressé par ce sujet-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ensuite, faut-il briser tous les tabous?
Faut-il briser tous les tabous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Les colères sont-elles inévitables ou indispensables?
La colère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Suis-je vraiment ou seulement un constituant du contrat social?
Suis-je vraiment ou seulement un constituant du contrat social? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.
Sommes-nous nécessairement seuls?
Sommes-nous nécessairement seuls? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Et enfin, faut-il protéger nos ressources en eau?
Faut-il protéger nos ressources en eau? Ou comment se comporter vis-à-vis de nos ressources? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Évian, 7. Donc, si les comptes sont bons, Marie-France, c'est la solitude.
Hein,
qui, c'est la peur? 27, 22, il me semble, non?
27, c'est la solitude.
Contre 22, ouais. Hein, donc sur la peur. Alors, la solitude. Pourquoi cette question, mademoiselle?
Alors, parlez bien dans le micro. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
C'est la première fois que je participe à cette café philosophe. Et moi, je viens de la Chine. Alors, moi, je suis étudiante à l'Université d'Orléans. Et c'est la première fois que j'arrive en France. Ça fait 2 mois. Moi, cette époque-là, je me sens seule.
Mm-hmm.
Je ne sais pas pourquoi, mais le sentiment de seul arrivait tout le jour. Et je cherchais des façons pour contre le seul. Je participais à des activités, je rencontrais des amis, mais quand je reviens chez moi, le sentiment c'est plus en plus fort. Alors je réfléchis si je dois contrôler le sentiment de seul ou je dois profiter, comment je peux trouver une façon de trouver l'équilibre. Peut-être que c'est mon faute, je ne dois pas contrôler ce sentiment d'être seul. Je dois profiter ou je dois trouver l'équilibre. Alors ça c'est une question très importante dans ma vie. Je voudrais partager, je voudrais écouter vous, comment vous pensez cette question. Voilà, merci beaucoup.
Non.
dans ce que vous dites, il y a une recherche qui peut être celle d'être heureuse. Est-ce que vous pouvez être heureuse seule ou il faut absolument être avec d'autres pour être heureux? Parce que s'il n'y a pas la question du bonheur, enfin d'être heureux, être seul ou avec d'autres, ben, c'est pas grave. À la limite, si on est malheureux, seul, effectivement, c'est un souci.
Oui. Peut-être que l'idée, ça serait de dire quand même que le sentiment de solitude, ça peut aussi renvoyer un sentiment, en psychanalyse, on parle de déréliction, c'est-à-dire déréliction. C'est-à-dire, oui, le fait tout d'un coup de sentir quelque chose comme un vide, quelque chose, voilà, qui nous sépare fondamentalement des autres, voire de nous-mêmes. Et à partir de là, c'est vrai que cette solitude, des fois, elle est pas surmontée par le rapport que je peux avoir à autrui, quoi. Et du coup, ça peut devenir une vraie souffrance. La solitude, c'est-à-dire être seul au monde, alors même que les autres peuvent être là, du coup on se sent seul au monde. Et du coup, comment on vit ce rapport à la solitude, quoi.
Est-ce que c'est pas simplement de n'avoir personne à aimer?
Ouais.
Est-ce que ce sentiment fort de solitude est en partie dû au fait de n'avoir personne à aimer.
Oui.
Même si la personne qu'on aime n'est pas à côté de nous, on n'aura pas ce sentiment de solitude intense. Alors que si on n'a pas une personne ou des personnes à aimer, on peut se sentir extrêmement seul.
Oui, tout à fait. Le manque d'amour.
Qu'on
donne. Oui, tout à fait.
Moi, je recherchais la question un peu du humain.
Ouais, ça dysfonctionne des fois, oui.
On va avoir l'instinct humain qui est basé sur une question grégaire. Bah, il marche pas. La douche, il est allumé, la belle et la lumière. Bon, non, j'entends.
Un, deux, un. Ah. Bon, l'autre côté de la pastille, je ne sais pas où elle est. En tout cas, bah, c'est pas très Covid après. Hein.
C'est vrai.
L'instinct humain est basé sur
une vie grégaire. Donc la solitude, elle existe par cet abandon de l'instinct grégaire. Donc l'amour rejoint avec. Et on se rend compte que. Chez l'humain, c'est récurrent, parce que les philosophes ont toujours parlé de cette solitude. On peut prendre Diogène qui a vécu dans son tonneau, il était jeune, il était seul, et ça l'a empêché de trouver des idées. Bon, il est devenu un peu fou. Donc ça ramène un peu à la folie. Avec l'amour permet de combler ça. Si on n'a pas l'amour de son prochain, on peut trouver, alors je ne vais pas revenir à ma question, mais on peut trouver dans nos religions.
Oui.
Voilà, parce que les gens qui ont fait des vœux d'ermitage, et puis ils en ressortent enorgueillis leur vœu d'ermitage et grandi. Ça demande des marches fortes quand même, hein, parce que c'est une démarche personnelle, mais se mettre en route de tout le monde. Donc, c'est de trouver son bonheur, vous dites, monsieur, seul ou sans amour, c'est possible. C'est pas forcément donné à tout le monde. Ça dépend déjà de la sensibilité de la personne avec son être. Mais il faut réfléchir sur soi-même. Et avant qu'il y ait tous ces médias, ces télés, tout ça, on se trouvait en paysannerie, et le moment après les bêtes, tout ça, qu'on allait, ou on sortait du champ, soit n'importe quel pays. Seul à soi-même, c'est bête. Et là, on met du temps pour réfléchir. À l'heure actuelle, on ne donne plus de temps pour réfléchir. Il faut du tout acquis. Un jeu de grattage, on gratte tout de suite. On n'a plus cette portée où on se dit, le temps de réflexion solitaire, il est bienfaisant. Et donc, ça ramène à une peur. Et ça ramène absolument à quoi on sert, qui on est et pourquoi je suis seul.
Ouais.
Et on prend toujours le bonheur des autres suranné par rapport au sien. Alors que finalement, si on interroge les autres, ils n'ont pas forcément un bonheur plus grand que le sien.
Le problème de la comparaison.
Mais dans
le... Oui.
Monsieur,
Une autre raison pour laquelle on peut se sentir seul, c'est aussi le fait de se sentir en décalage avec, avec le groupe. Et notamment, bah, quand il y a une différence culturelle, ça peut être d'autant plus marquant qu'on baigne dans un endroit où on ne connaît pas l'école. On se sent en décalage et enfin, quand on se sent seul dans la foule, je pense qu'il y a quelque chose de ça, une incommunication entre, entre ce qui se passe chez les autres, chez nous. On n'arrive pas à exprimer vraiment qui on est. Il peut y avoir aussi de ça qui se rajoute au manque d'amour et ce genre de choses.
Oui,
je voulais dire ça aussi un peu. Nous, on baigne dans un bain culturel qui nous est familier.
Attendez, on va vous passer le micro, mais il y a monsieur avant.
Il y a des gens qui ont demandé la parole. Il y a
monsieur un autre. Essayez de le faire dans l'air.
Vous faites nous signe, mais là, on a le monsieur encore après.
Oui, moi, je voulais revenir, vous l'avez un petit peu abordé, parce que, en fait, je pense qu'il y a deux formes de solitude. Il y a la solitude imposée et la solitude choisie. Ça produit pas la même chose. Quand on choisit quelque chose, on peut considérer qu'on est heureux quand on a atteint notre pas. Si mon choix c'est d'être seul et que je suis seul, je suis content parce que j'ai atteint ce que je voulais. C'est pas tout à fait la même chose que quand je suis seul parce que je me retrouve tout seul dans ma chambre d'étudiant ou mon petit studio après le boulot le soir et que j'aimerais bien voir du monde et que je vois personne. Donc la question c'est par contre quand cette solitude est imposée, est-ce qu'on peut la transformer en genre je suis seul certes mais j'en profite.
Voilà, quelque chose de riche.
Est-ce qu'on peut malgré bien que ce soit imposé,
d'en faire quelque chose à mon avantage.
En fait, se dire, je choisis de rester, j'en profite, je suis seul pour faire un tas de trucs, mais pour faire quelque chose. Est-ce qu'il est possible de retourner cette chose qui est imposée en un choix, en fait, voilà.
Transfiguration de la solitude. Oui.
Moi, j'ai envie de retourner la question, peut-être de la grossir un petit peu. Est-il nécessaire d'être seul, c'est ça ? Sommes-nous nécessairement seuls ?
Oui.
Moi, j'aurais envie de poser la question de la compagnie comme une illusion, comme une sorte de mirage. On cherche à être avec l'autre. Et au fur et à mesure qu'on s'en approche, l'autre se recule.
Ouais.
Voilà. C'est sur la nécessité là.
En fait, je crois que essayer de tenir le micro bien comme ça, devant.
Alors, je vais juste me permettre quand même de reformuler un peu votre intervention. Essayez avec le micro, ça marche ?
Oui, j'ai déjà.
Ouais, ça a l'air de marcher mieux, ouais.
Par sommes-nous nécessairement seuls, par la compagnie, c'est-à-dire l'opposé de la solitude, comme une illusion, comme un mirage duquel on s'approche, mais sans jamais l'atteindre véritablement.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Presque le fantasme de la communion avec les autres, en fait.
Exactement.
Ouais. Mm-hmm. Madame ?
Je ne sais pas si ça marche.
Ça allait bien devant, comme ça.
Je me dis que peut-être aussi, au-delà d'être avec des autres ou être seul, est-ce que malgré tout, on n'a pas besoin d'échange, de partage, de se confronter, au bon sens du terme, c'est-à-dire toujours d'avoir un retour par rapport à soi-même qui vient forcément des autres. Et quand on est seul, c'est peut-être ça qui manque.
Mmh. On reviendrait sur l'idée que nous sommes des êtres grégaires, hein. Donc du coup effectivement le fait de se retrouver seul et coupé des autres est vécu difficilement. Ouais. Besoin des autres pour être. Ouais. On va vous passer un micro.
Non. Je fais partie d'SOS Amitié.
Oui.
C'est une association
où les gens complètement anonymes des deux côtés disent ce qu'ils veulent. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'était 99% des appels, c'est sur une solitude très mal vécue, pouvant pousser certains jusqu'à des tentatives de suicide. Dans la nécessité de pouvoir communiquer, être aimé, sentir, toucher même, amicalement, hein, pas forcément. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée.
D'où l'importance de l'association. Parce que déjà, il y a l'écoute. On retrouve cette idée du partage.
Etc. Mais Alors, je pense que, personnellement, je pense que c'est un besoin inhérent au fait d'être un être humain. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, chacun, être quelque part un petit SOS amitié?
Oui. Alors, du coup, j'ai presque envie de relancer la question. Est-ce qu'on peut toujours être avec les autres?
Non, pas du tout.
Pour retrouver la question de la solitude subie ou choisie.
Il faut se recharger.
Ouais.
Pour pouvoir se recentrer sur soi pour pouvoir donner
aux autres.
C'est mon opinion.
Parce que là, on trouverait la richesse de la solitude, alors.
Voilà.
Ouais.
On a besoin des de deux. Hein.
Monsieur ?
Moi, j'ai une question sondage pour ce soir. L'ensemble des gens qui sont là. Est-ce que certains sont venus parce qu'ils étaient seuls ce soir et se trouvaient en groupe, ou plutôt en thématique, plutôt d'être dans cet intérêt ou voilà.
Le café philo qui permettrait de lutter contre la solitude.
Pour moi, à l'âge de temps,
je dis ça.
Moi, j'en fais partie un peu.
Ouais. Alors, qui lève la main? Lutter contre la solitude?
En partie.
Moi, je lève la main, mais pourquoi on a parlé?
Moi, j'ai aussi souffert de solitude, donc j'ai lu pas mal. Et j'avais trouvé sur être déjà un bon compagnon pour soi, c'est déjà, parce que c'est avec soi-même qu'on va passer toute sa vie. Déjà apprendre à être un bon compagnon pour soi. Mais aussi, j'avais lu Tolto et elle disait que le sens de la vie pour elle, c'était dans l'échange avec les autres.
Oui, bah, je voulais dire, c'est, on se retrouve ici parce qu'on est seul éventuellement, mais pas pour partager quelque chose, quoi. Envie de parler de quelque chose ensemble, d'un sujet, c'est le partage, quoi, qui est intéressant.
Ouais. Madame.
On parle beaucoup aussi de personnalité.
Allez-y.
Je dis, on parle très souvent de personnalité, et ça rejoint un peu ce que disait le monsieur. Alors, de quoi est-on habité? Si on est habité, il me semble qu'on n'a pas besoin de l'autre, ou alors beaucoup moins besoin de l'autre, mais qu'est-ce qui peut nous habiter? Et effectivement, peut-être des croyances peuvent nous habiter, des religions, etc. Effectivement, tout dépend peut-être de la personne, comment elle est construite. On peut être avec des personnes, être heureux avec des personnes, moins seul, et plus aussi.
Voilà. Donc, madame disait en fait que, effectivement, on pouvait être habité par quelque chose qui fait que ça casse un peu ce sentiment de solitude qu'on peut avoir. Mais si je me trompe, ce que j'ai cru comprendre, c'est malgré tout, même dans le rapport aux autres, il y a ce quelque chose de solitude qui reste. Et donc, on est plus ou moins seul lorsque. C'était ça votre idée, madame ?
Pas forcément. Il y a des personnes qui sont complètement habitées et qui se nourrissent et qui n'ont pas besoin de l'autre.
Voilà.
Par exemple, un ermite. C'est quelqu'un qui est habité.
Voilà.
Il reste dans sa solitude, dans sa réflexion. Il se nourrit peut-être d'éléments intérieurs comme des livres ou je ne sais pas, mais il est seul.
Voilà, il n'a pas peur de la solitude.
Statistiquement, c'est pas beaucoup de monde.
Non, oui. Marie-France.
Moi, je voulais revenir deux secondes sur le café philo, parce qu'effectivement, quand on l'a créé, on avait bien sûr cette idée de provoquer des débats, des réflexions collectives, mais on a toujours souhaité associer tous nos événements à des temps de convivialité, le repas partagé après les cafés philo, le pot après les conférences, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est aussi une façon de socialiser. Et il n'est pas rare qu'on voit des gens partir en échangeant leurs adresses ou leur numéro de téléphone à la fin du repas partagé. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, je voudrais aussi citer Albert Jacquard qui disait toujours « Le je n'existe que grâce au tu ».
Sur la question de la solitude,
ça marche ?
Ça marche, je ne sais pas.
Oui.
Je ne m'entends pas. D'accord, pardon. Voilà, c'est parfait. Je trouve pas mal de des choses qui sont un peu confuses, qui me perturbent un peu l'esprit dans les réactions. Parce que déjà, il y a une confusion, enfin, excusez-moi, je trouve une confusion entre solitude morale et solitude physique.
Mm-hmm.
Et je pense que la question, c'était sur la solitude morale.
Mm-hmm.
Et donc, je pense que c'est pour ça que quand on parle de l'ermite, il n'a pas de solitude morale, mais une solitude physique. Donc, la question était plus sur la solitude morale. Les autres éléments, c'est que, tel que j'entends les gens réagir, c'est sur l'ennui ou la peur d'être rejeté ou pas accepté, ce qui n'est pas forcément la même chose que la solitude. Et en fait, sur ce que j'entends, ce qui est dit, moi, mon ressentiment, mais peut-être qu'il est faux, c'est qu'en fait, la vie en tribu, en croyance, c'est pour se distraire de l'obligation de penser. Et on s'ennuie parce qu'en fait, on est obligé de penser. Donc, en fait, quand on n'a pas à remplir de la pensée, il y a tellement d'ennui qu'il faut trouver quelque chose pour remplir. Sinon, ça, en fait, le cerveau, il a besoin de se remplir. Et en fait, la solitude, c'est comment remplir le fait que le cerveau, comment remplir son cerveau, qui est obligé de se remplir parce qu'il pense, parce qu'on est condamné à penser. Et c'est comment boucher cet élément à penser. Donc en fait, à travers la question de la solitude, moi j'ai plutôt trouvé qu'il y avait une question sur l'ennui avec soi-même.
L'ennui, ouais. L'ennui avec soi. Mais il y a de l'autre dans le bouquin, oui.
Oui, voilà. Le livre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, donc quand on lit, effectivement, on n'est pas tout seul. J'ai entendu qu'on était des êtres grégaires. J'aime pas trop ce mot, moi je préfère dire qu'on est des animaux sociaux, des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans échange. Aucun de nous, ici, et même les ermites, je sais pas, moi, qu'ils soient chasseurs, cueilleurs, mais souvent ils étaient nourris par la charité de leurs adeptes ou de gens qui les admiraient. Dans la solitude, quand on se sent vraiment seul, je pense qu'on est aussi dans la dépression. C'est-à-dire qu'une personne déprimée est toujours seule, même avec les autres, elle est seule. Et on ne peut pas en même temps avoir... il y a une tristesse dans cette solitude, une dépression... Si on est gay, si on est heureux, avec les autres, on le sera aussi tout seul. C'est ce que disait aussi ma voisine, qu'il faut être un bon compagnon pour soi-même, faire attention à soi, et des fois, on n'est pas en état de le faire. Et dans ce moment-là, c'est des moments où on se sent forcément seul. Alors des fois, peut-être qu'il faut aller creuser au fond de ce trou-là pour trouver donner le coup de pied qui fera remonter à la surface. Mais la solitude... On passe tous par des moments de solitude, même bien entouré.
Ouais.
Moi, j'ai peut-être un avis un peu plus modéré sur la question. Je pense que d'un côté, on a besoin forcément des autres, tout simplement pour remettre ses propres croyances. En cause, quoi, et petit à petit évoluer. Et d'un autre côté, je pense que la solitude est quand même un peu nécessaire et il faut savoir l'accepter parce que il ne faut pas chercher à trop vouloir finir par la pensée aux autres. Ce que je veux dire, c'est que si on va jusqu'au point d'essayer forcément de penser comme les autres, ça peut devenir dangereux et on peut même enfin même pour la personne avec laquelle tu essayes de t'unir par la pensée, tu peux, ça, elle peut carrément te repousser et peut en venir de la haine. En fait, il faut toujours essayer d'être libre toi-même et de laisser la personne libre vis-à-vis de sa pensée, sinon. Sinon, ça peut créer des conflits et voilà. Je pense qu'elle est nécessaire. C'est pour ça que je pense que la solitude, elle est nécessaire. Quoi.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de l'articuler avec le besoin d'amour. C'est-à-dire la solitude, elle serait cassée en fait par le fait qu'on aime l'autre ou que l'on soit aimé. Et du coup, la difficulté, ça serait que pour sortir de la solitude, on cherche à tout prix à être aimé. Et donc, pour être aimé, on va tout faire pour plaire, pour être accepté, on va séduire. Et du coup, on se perd soi-même. On n'est plus soi. Et là, le moindre rejet nous renvoie à la solitude et ça décuple encore de façon plus forte ce sentiment premier dont on essayait de s'échapper. Oui. Donc oui, vouloir être accepté, vouloir être aimé, ou en tout cas tout faire pour l'être, ça peut effectivement, en tout cas ça ne permet pas à l'individu de se trouver lui-même et d'établir un vrai relationnel vis-à-vis de l'autre. Donc oui, ça peut être problématique. Ça.
Ouais. La liberté, c'est
important. Oui. Il y avait mademoiselle.
Je pense qu'on peut voir cette question de la solitude sur deux plans, le plan psychologique et sur le plan social. Sur le plan psychologique, monsieur parlait tout à l'heure de l'ennui. Ça m'a fait penser un peu au divertissement, au sens de Pascal, pour ne pas penser à notre angoisse de la mort. Sur le plan social, il y avait Durkheim qui avait fait l'analyse sur le suicide.
Ouais.
Qui s'était rendu compte que justement, les périodes où les personnes se sentaient seules, ils allaient plus avoir tendance à se suicider, alors que dans d'autres périodes, par exemple avant des élections ou je sais pas, peut-être des matchs de foot, on verrait aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de taux de suicide parce qu'il y avait un espèce de sentiment d'être intégré dans la société. Mm-hmm. Et du coup, je pense que voilà, ça peut être deux éléments d'analyse. Et d'ailleurs, quand on voit qu'il y a des personnes qui vont adhérer à certains types de pensées et qui vont suspendre leur propre jugement pour être intégrées dans un groupe, je pense que ça revient aussi à vouloir absolument se fondre dans quelque chose pour avoir l'impression de ne plus être seul. Parce que c'est un leurre.
Ouais. Alors, c'est intéressant de revenir sur Pascal parce que je pense qu'il reprend parfaitement en fait votre remarque, ce par quoi vous avez débuté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la solitude ? Et vous avez dit, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'activités ? Voilà. Et c'est l'idée du divertissement chez Pascal. C'est-à-dire, chez Pascal, le sentiment de solitude, il est inhérent à l'individu. C'est-à-dire, nous sommes constitués avec ce sentiment d'être fondamentalement seuls, qu'est l'angoisse de la mort. Mais Pascal, il dit, en fait, nous sommes incapables de rester seuls, enfermés dans une chambre. Voilà. Et donc, quand on est seul, enfermé dans une chambre, en fait, l'angoisse prend, et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir de la chambre. Et donc, ne pas penser. En fait, ne pas penser à sa réalité existentielle, ne pas penser au fait que mon corps même me distingue des autres, que le cordon ombilical, il a été coupé et que je suis irrémédiablement seul. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas penser à cet état-là ? Eh ben, on fait tout. On tombe amoureux, on fait la guerre, on s'ennuie. Les ennuis évitent l'ennui. Moi, je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Si vous voulez justement vous sortir de la solitude, créez-vous des problèmes, dit Pascal. Voilà, au moins, vous avez quelque chose à quoi penser. Vous avez un os à ronger et ça vous détourne de vous-même. C'est-à-dire, dès qu'on est centré sur soi, effectivement, ce sentiment de solitude est présent. Et c'est là où Pascal va dire, en fait, qui vient rompre la solitude ? Le grand autre, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Comment sortir de ça ? Comment sortir de la misère de l'homme par le rapport, en fait, à la croyance et au grand autre, qui, lui, va toujours être là pour nous habiter, à la différence du petit autre, de l'être que l'on aime, de l'ami ou autre, qui lui peut partir, qui lui peut nous laisser, qui lui peut nous rejeter, qui lui peut m'aimer un jour et ne plus m'aimer le lendemain. Et je trouve que ça renvoie aussi à l'idée du déracinement. Voilà, quand on quitte son pays, quand on quitte sa famille, quand on quitte le lieu où on vit, il y a un déracinement qui fait que, oui, le sujet se perd lui-même aussi. Alors, Pascal, philosophe français du XVIIe, qui a écrit donc ses fameuses pensées.
Oui, juste parce que je voudrais dire que si on réussit à se défaire de l'agitation permanente, et si on rentre un peu dans soi et dans le calme intérieur et dans le moment présent, mais vraiment beaucoup dans le calme intérieur, on est tous reliés. Mm-hmm. On est tous reliés à tous les autres, on est reliés aux animaux, on est reliés aux arbres. On est, à la fois, on peut dire qu'on est toujours seul, mais qu'on n'est jamais seul. On fait partie d'un grand tout et on est tous, l'idée, c'est qu'on est tous reliés.
Alors l'idée, ça serait de dire que là, c'était la communauté qui était une illusion. Et là, on pourrait dire que c'est en fait notre individualité qui serait une illusion. En fait, on n'est pas seul parce qu'on n'est pas, on n'est jamais exclusivement soi.
Hein? On fait partie d'un immense ensemble.
Mm-hmm. Tout à fait, oui. Mm.
Pour ça, il faut sortir de l'agitation. Mm-hmm. Il faut essayer de vouloir toujours faire quelque chose. Je pense qu'il faut essentiellement essayer plutôt d'être et non pas de toujours faire et encore faire.
Mm-hmm.
C'est mon idée.
Oui. Mm-hmm. Chez Pascal, je pense que cette sortie de soi qui tout d'un coup me met en relation avec les autres passe en fait chez lui par Dieu, par le grand autre. Mais voilà, après on peut mettre... voilà, l'idée je crois que c'est d'arriver à se relier à autre chose que soi. Ouais. Oui.
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 Je vais peut-être un petit peu sortir des sentiers, etc.
Oui.
Effectivement, on a passé des périodes où on peut se sentir seul.
Mm-hmm.
Sinon, moi, j'ai juste une question par rapport à la jeune fille qui la pose, parce que sa situation n'est pas
simple. Oui.
Depuis deux mois en France, venant d'une culture totalement différente, un pays qu'elle connaît peu, forcément. Mm. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de poser juste une petite question quand même. Le fait de pas forcément. Est-ce que tu te sens bien la journée entourée ? Est-ce que tu te sens dans tes cours ?
Est-ce que
tu as
compris
que... Ah, si, bien. Voilà. La question est un petit peu là. Est-ce que tu as déjà été allé vers les autres et leur expliquer ton mal-être quand tu te retrouves toute seule, enfermée dans ta chambre ?
Je ne sais pas
si je m'exprime bien, mais
oui,
ce que je veux dire par là, c'est que moi je pars du principe des problèmes, on en a tout le temps. En fait, il y a toujours des solutions à tout problème. Et il y a aussi une démarche à avoir, hein, peut-être, vers les autres. Et ne pas avoir peur de dire les choses que l'on ressent. Pour ne pas, des fois, on n'ose pas dire, pour ne pas se sentir différent. Et je pense qu'il est important que les autres sachent aussi le mal-être que l'on peut avoir, parce que finalement, ils l'ont peut-être tous.
Oui.
Je pense que ce n'est pas juste la période que j'arrive en France. C'est-à-dire que mon corps est vide. Ce n'est pas juste que j'arrive en France, il y a des gens... Il y a des gens pas comme moi, mais c'est parce que je arrive en France pour trouver une autre façon de vivre, pour rencontrer des gens. Les Français sont gentils. À Orléans, j'aime beaucoup, mais j'ai quand même le sentiment que mon corps est vide. Mm. C'est-à-dire, c'est vraiment une question de philosophie. Dans la vie quotidienne, je suis une étudiante, je suis une chinoise, mais quand je passe la solitude, je ne sais pas je suis qui. Je ne sais pas comment je construire. C'est dans le modèle, dans la vie modèle, j'ai été construire les vêtements, les cheveux, la culture. J'ai été construit. Mais quand je rentre chez moi, j'ai peur de face à moi. Je sais pas je suis qui, je sais pas du tout. Dans mon cœur, c'est vraiment une question philosophique. Je réfléchis à cette question. C'est là, aussi, il y a des grandes personnes, des peintres, qui est toujours très, 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 très seul. Personne lui aime, mais il y a des très, très beaux œuvres. Par exemple, le peintre de Van Gogh. Il est toujours seul, mais il y a des sentiments de solitude, mais écrire des beaux arts, je pense que c'est une façon de trouver moi-même. Mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de douleur. Alors, j'ai juste réfléchi beaucoup. Et j'ai beaucoup de douleur aussi.
Mais oui, oui, oui. Mais la création artistique est douloureuse à cause de ça, oui. Oui, oui. Problème d'identité, hein. Oui. Oui.
Je voulais insister sur ce que la nature a créé, hein, parce que là, on philosophe sur le fait que l'humain est primitif. On n'est pas les seuls, hein, je défends tout ça. Je dis d'une façon grégaire. J'ai choisi le mot grégaire plutôt social, parce que les grégaires, on dit les sociales. Les cognitifs, on en met de plus en plus. Le corbeau est un cognitif. Par rapport à la mort connue, ils savent. Mais l'humain, en fait, avant notre naissance, on ne sait pas. Ceux qui le savent, ils lèvent la main, ils l'expliquent. Après, on ne sait pas. Mais jusqu'à un moment où on a cette conscience-là, où on est seul, on va mourir seul. On a retenu la main de quelqu'un, on meurt seul. Accompagné, on en fait, on meurt seul.
Oui.
La solitude, elle est inhérente à l'humain, du début à la fin. Vous avez quelqu'un dit tout à l'heure, effectivement, on va être son meilleur compagnon. Celui qui nous tient la main, on s'en va, on meurt, c'est nous-mêmes. On ne peut pas être nous, parce que si on est franchi, c'est pas nous. Et ça, c'est la grande question de l'humain. Moi, j'en connais qu'un, à part l'humain qui se met dans une religion, parce que instinctivement, l'humain, dans tout le temps de l'histoire que moi j'ai appris, l'humain a un rapport au divin. Que ce soit un caillou, un totem, tout le monde a instinctivement un rapport à l'humain, à un divin, même si. Et j'en connais qu'un qui a su, effectivement, il s'est passé tout ça, c'est Bouddha, qui donne une culture, lui, par sa culture, il se renferme sur lui-même, il est heureux sur lui-même. Voilà. Et donc, il y a les philosophes anciens avec Épicure, vous pouvez effectivement dans la vie simple, l'hédonisme, avec ramener avec le stoïcisme, parce que l'humain est un égoïste par nature, fondamentalement, l'humain est un égoïste, on ne voudrait pas l'accepter. Toute pensée triste, il faut savoir que, moi je pense, toute pensée triste, elle dure longtemps cette phrase-là, mais toute pensée triste, c'est une pensée égoïste. Donc le bon, quand même. Parce que ça nous ramène à nous.
Oui. D'où Bouddha détruit l'identité, il travaille à la destruction du moi. Hein. Ouais.
Donc,
ouais,
ouais. Il y a des moyens que les gens n'avaient pas, tous en religion ou croire comme Bouddha, par l'écriture ou par le poème, par l'artiste, effectivement, on s'enferme dans quelque chose qui est face à nous-mêmes, et là, on voit plein de gens qui ont fait, par des poèmes, par des chansons, ils se mettent dedans, et là, l'ennui disparaît le temps qu'on fait en face. Moi, je me sens beaucoup seul, je bricole, même pendant que je décolle, je suis occupé, je me sens vide. Si je me mets vers le côté artistique, c'est moins le rapport à la terre. Parce que, en principe de Gaïa, on touche la terre, donc du décollage avec du jardinage, tout ça, on se rend compte que tout de suite, on est plus grandi. On appartient à cette terre.
Alors le tout, ça, on revient quand même sur la notion d'être habité par, parce que c'est quand même un problème d'être vide ou d'être plein. Vide de soi ou plein de soi. Hein. Donc, c'est vrai que la grande question par laquelle la philosophie va débuter, c'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, et qui peut rejoindre dans des formulations peut-être plus contemporaines le problème du sens de l'existence. Parce que pourquoi j'existe ? Et la capacité qu'on a de répondre à la question « pourquoi j'existe ?» fait que effectivement, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une consistance du sujet qui se met en place. Le problème des sociétés dans lesquelles nous sommes, peut-être, c'est que effectivement, Camus disait, on est dans l'absurde. Voilà, ouais. Voilà, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc à partir de, oui, je me lève le matin, oui, je vais faire mes cours, oui, je rentre le soir, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai, voilà. Mais au final, tout ça, pourquoi? Ouais. Oui.
Oui. Il me semble que la solitude, en fait, c'est le résultat de l'isolement. Mm. Et l'isolement peut être choisi. Mm. Et dans ce cas, la solitude a un sens. Par contre, l'isolement peut être subi. Et là, il me semble que la solitude devient une relation, un échec de la relation. Mm. Et il me semble qu'à ce moment-là, il faut prendre en compte l'autre. Et j'ai envie de présenter combien de personnes, par exemple, par leur comportement, leur façon d'être ou autre, sont jugées prisonnières et sont rendues invisibles. Mm.
Et sont coupées des autres. L'invisibilité
de ces gens-là, ouais. C'est bien, c'est parce que les autres ne les voient pas.
Ouais.
Ou aussi parce que les autres... C'est la notion de rejet, de rejet aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut très bien être, et moi je pense par exemple à certaines personnes ou certains critères qui traînent dans les têtes et qui font que l'autre, enfin la personne est là au milieu de nous, mm. mais nous la rejetons, nous la rendons, nous l'isolons. Mm. Et la solitude, à ce moment-là, il y a une solitude de souffrance, puisque j'ai beau être parmi les autres, c'est les autres qui me rejettent.
C'est un problème de reconnaissance, en fait. À partir du moment où je ne suis plus reconnu par les autres... Voilà, ouais. Donc, oui, madame Marie-France, vous étiez avant?
Oui, je crois que j'étais avant.
D'accord, madame.
En fait, moi, je voulais évoquer la solitude abyssale de certaines personnes âgées dans les EHPAD, notamment celles qui ont perdu la vue ou qui sont très malvoyantes et très malentendantes. Mmh. Et quand on a perdu les moyens de communiquer avec les autres, je pense que là, la solitude, elle est terrible. Mmh. Et ce que j'ai remarqué, alors, je n'ai pas de quoi faire une statistique, mais sur deux cas, c'est que très rapidement, on perd la tête.
Oui, la folie. Hein. Mm. Ouais. Il y avait madame.
Je pense qu'en fait, il y a plusieurs sortes de personnes déjà. Il y a plusieurs sortes de solitude. Comme disait monsieur, ça dépend si on a choisi ou pas. Mm. Et ensuite, ça dépend comment on perçoit la vie, comment on est avec soi-même, comme on disait. Après, ça se construit, quoi. Enfin, moi, je vois pour mon cas, j'ai eu bon...
La voix porte pas tant que ça.
On n'entend rien, par exemple.
Pardon, j'ai choisi ma solitude, sauf que...
Bon, on ne vous entend pas.
Je pense que... ouais.
Je pense que...
On m'entend, là? Oui.
Je pense que la solitude, même si on l'a choisie, il faut apprendre à vivre seul pour se sentir bien. Mm. Et c'est pas. Je pense que ça s'apprend pour la petite fille qui est devant moi, là. Et comme elle vient de l'étranger, déjà, c'est justement se faire accepter. Et aussi, c'est le rapport qu'on a avec nous-mêmes, déjà. Mm. Et ensuite, quand la solitude, elle est profonde et c'est de la souffrance. Je pense qu'on tombe effectivement dans la dépression parce que on se sent seul même avec les autres et on a l'impression d'être perdu, enfin d'être c'est de la peur en fait.
Oui, ouais, tout à fait, ouais. Oui. Voilà. Oui. Solitude de façon positive. Oui.
Oui, certes de façon temporaire, mais c'est certes que le rêve, il est difficile de rêver à plusieurs.
Il est difficile d'avoir de l'imagination à plusieurs. Après, on peut partager et construire l'imagination créatrice. Alors, on n'est pas besoin d'être artiste, mais on a besoin de solitude. On a aussi des fois besoin de solitude pour souffler. A contrario, l'enfer, un peu, enfin, je prends l'enfer, c'est les autres, c'est un peu facile de paraphraser ça, mais en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas, et en fait, je ne suis que ce qu'ils pensent de moi.
Enfin, ouais.
Je n'ai pas le temps de m'expliquer, j'ai envie d'être un petit peu tout seul. Et en fait, je voyais tout ça, en fait, la solitude, on en a besoin, mais on a besoin d'être avec les autres, en fait, c'est un juste équilibre. Un peu de social, un peu de solitude, un peu social. Alors, c'est partir de la philosophie chinoise, donc personne n'a conduit les gens. En fait, c'est pas purement que la culture, purement que l'agrégation sociale, purement d'être toujours occupé, etc. Il faut avoir un juste équilibre entre les deux. C'est justement, dans la philosophie chinoise, c'est ce fil de justesse qu'il faut y avoir en permanence, jamais dans un excès. Et à la limite, le mensonge est même nécessaire si on reste sur ce fil d'équilibre. Donc la solitude, oui, mais pas trop.
Pas tout le temps. Ouais.
Pas tout le temps, parce qu'en fait, je reprends l'enfer, c'est des autres, je trouve vraiment très très bien ça, cette petite pièce de théâtre. Mais c'est voilà, c'est où trouver ce juste équilibre.
Ouais. Ça permet de se recharger, oui, de se ressourcer. C'est vrai. Elle est créative. L'écrivain est seul. Le peintre est seul. Enfin, il y a des activités. L'activité artistique et créatrice, elle est seule. Le scientifique qui pense, qui recherche, etc., il le fait seul. Donc c'est vrai. Mais en même temps, il fait. Voilà. Il y a une production. Et c'est dans cette production qu'il se retrouve lui-même. Ouais. Peut-être que pour revenir sur l'ennui, dans l'ennui, il y a le fait de ne pas faire. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut s'ennuyer sans pour autant ressentir de solitude ? C'est-à-dire, il me semble que dans la solitude, il y a quelque chose d'existentiel qu'il n'y a pas dans l'ennui. Dans l'ennui, voilà, c'est beaucoup plus superficiel, l'ennui, en fait. Voilà, alors au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, pas pour s'en sortir de l'ennui, il faut bouger un coup et puis ça va. Alors que dans la solitude, il y a quelque chose de plus compliqué, ouais. Oui.
Moi, je voulais juste apporter le point de vue de la personne que je lis beaucoup et que j'adore, quoi, Simone Veil, quoi. Elle dit que la vraie humilité, c'est pas de penser qu'on est néant par rapport aux autres. C'est de penser qu'on est néant en tant qu'être humain. Et là, ça rejoint le point de vue de Camus sur l'absurdité de la vie.
Oui.
Et c'est, en fait, faut l'accepter, en fait.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre de notre vacuité.
C'est ça,
ouais. Ouais.
C'est pas drôle, là.
Non.
Monsieur,
là. Oui.
Depuis un petit moment, je me dis que quand on parle de solitude, on parle d'absence d'être humain. Mais si on élargit un petit peu, ça a été
un petit peu évoqué.
Un petit peu évoqué tout à l'heure. Si on parle des êtres vivants, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche de la solitude ? Et donc après, je me dis, il doit bien y avoir, il y a d'autres cultures. Je ne pense pas forcément à la culture chinoise que je ne connais pas particulièrement. Mais par exemple, on a récemment beaucoup entendu parler des gens d'Amérique latine, d'Amazonie, qui parlent de la rivière comme d'un être vivant. Et donc, si on élargit un peu la possibilité de dialogue et d'échange, on peut déjà parler avec son chat si on en a un, par exemple, c'est déjà bien, et en plus il répond,
ça communique, ouais.
Ça communique bien. Alors une souris, c'est un peu compliqué, une puce, je sais pas, mais on peut parler avec ses fleurs, on peut parler avec des arbres aussi, on sait que les arbres se déplacent entre eux, donc peut-être qu'on comprend pas ce qu'ils nous disent à nous parce que on n'a pas les clés pour comprendre leur langue. Mais, donc est-ce que si on élargit on ne parle pas d'être humain, mais on parle d'être vivant en général. Est-ce que ça ne change pas un petit peu
les choses, de, enfin, comment dire, est-ce que notre point de vue reste le même? Mm-hmm. Voilà, c'est, en élargissant un petit peu, est-ce que ça permet pas déjà d'être un peu moins seul, parce que on peut souvent aller voir un arbre, même à 1h du matin, et parler. Enfin, moi,
Il est là.
Ma chatte aussi, elle est là à 1h du matin. Je suis pas très bon bête, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que quand on a l'impression d'être trop tout seul, s'intéresser un peu à ce qui nous entoure, à ce qu'on a autour de nous, qui sont des êtres vivants avec qui on peut éventuellement avoir un échange malgré tout, même si on ne parle pas la même langue.
Et là, ça revient peut-être sur le fait que la solitude, elle est peut-être liée au fait que nous sommes des êtres qui parlons. Et donc, en fait, on pense la chose sur un mode extrêmement intellectuel et rationnel. Et effectivement, le rapport à l'arbre, il ne peut pas passer par la rationalité ou l'intellectualisation. Il va passer par le sentiment, il va passer par un nouveau rapport au corps. Et donc, oui, se rapporter autrement au monde, ça peut effectivement nous permettre de nous relier, hein, comme on disait, à tout ce qui nous entoure. Voilà, ouais.
Malgré tout, on est des êtres humains. On a cette conscience de notre monde, de notre solitude, de notre peur, que sans doute l'arbre n'a pas, ni l'animal. Effectivement, je suis assez d'accord avec Camus et son analyse de l'absurde parce qu'on perçoit cette absurdité de notre condition, et ce qui fait qu'on souffre de solitude, on est seul de toute façon. Philosophiquement parlant, on est seul, c'est une évidence. Le fait de dire qu'il faut l'accepter, je suis d'accord. Le problème, c'est que quand on ne l'accepte pas, on n'arrive pas à l'accepter pour tout un tas de raisons. On se tourne vers tout un tas de choses, des religions, des croyances, des arbres, des tortues, tout ce qu'on veut. Parce que sinon, c'est une souffrance. En fait, la solitude en soi, elle existe, elle est là, elle est philosophiquement démontrée. Mais le problème, c'est qu'elle se transforme en souffrance, d'où après l'aspect psychologique, psychanalyse, etc. Et je pense que c'est là où il y a la charnière. La solitude, elle existe. On est tous habités. À certains moments, on le ressent plus ou moins parce qu'on n'a pas les autres, ou on a un chagrin d'amour, ou on a tout un tas de choses. Mais fondamentalement, on est seul, on ne fait ses choix que seul, on meurt seul, comme disait le monsieur. Mais par contre, c'est cette condition absurde qu'on a du mal à accepter, qui fait qu'on se divertit, et qui fait que pour l'accepter, il faut tout un tas d'intellectualisation, parce que justement, on a ces moyens d'intellectualiser parce qu'on est des êtres de raison, et sinon, on tombe dans la souffrance, la dépression, etc. Donc, la solitude existe, il faut la dompter peut-être, et il y a des moments où on n'y arrive pas.
Oui.
Oui, la solitude dans le cadre d'un deuil aussi. Apprendre à vivre sans
l'autre.
On parle de rivière, de comme un être vivant, tout ça. Tout à l'heure, je parlais de Gaïa. Donc, si la rivière est vivante, Gaïa est vivante. Mais c'est ce rapport que l'humain, par ce côté social, a perdu, peut-être trop nombreux sur cette planète, dans le temps, était païen. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est païen. Païen, ça veut dire paysan, c'est-à-dire par rapport à la nature. Dieu, c'est pas forcément Dieu d'existence, c'est une seule que Gaïa.
Alors, on va peut-être définir qui est Gaïa.
Gaïa, c'est le concept que la planète est elle-même entière et vivante, et abrite la vie sur elle, mais elle-même est quelque chose de divers qui a sa propre vie. Et qui se gère pour garder sa vie comme nous, on se gère en combat pour gagner notre propre vie. Et ça, on regarde un peu de façon personnelle des écrits à l'histoire, c'est inclus dans le génome humain, ça, de vivre en symbiose avec sa planète. On est terrien, au niveau effectivement philosophique, on a coupé en deux, on s'est coupé en deux, on va vraiment vrai. En dessous de nous, c'est terrien, au-dessus, c'est divin. Quand on est trop divin, on commence le divin, commence le nouveau des Christ, on finit en asile. Hein. Quand on est trop terrien, c'est plus vrai parce qu'on appartient à cette planète. Peut-être qu'on vient d'autre part, mais en fait, on est né ici. Hein. Et dans un ancien temps, au niveau de la paysannerie, il y avait beaucoup moins d'ennuis par rapport à la planète. Parce qu'on était proche de la nature. On a détruit beaucoup de nature, on ne sait plus faire ça. Et que le social nous enlève sur les natures, avec le grattage, il faut absolument le milieu social à s'entourer. Soit on a besoin de beaucoup de monde pour être seul, pour ne pas se sentir seul, ou très peu.
du coup de l'amour d'ailleurs, un être au moment qui a été dépeuplé, ça s'est connu, un seul être.
Un seul être, oui, ça suffit.
Et là, on n'a pas l'être qui se porte vers le divin, parce que, je vous le dis, instinctivement, l'humain se porte vers le divin.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que parce qu'on s'est coupé de la nature, c'est tout le grand problème écologique, hein, voilà, justement, on ressent de façon beaucoup plus forte qu'avant cette solitude.
C'est
grave,
c'est plus on est
nombreux, on s'en sort. Oui. Je voudrais revenir en fait sur ce que disait. Plus près.
Voilà, comme ça.
Comme si vous lâchiez une glace.
C'est bon,
oui. On va voir. Hein. Est-ce que ça fonctionne?
Alors, c'est bon. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit la jeune fille quand elle a proposé le sujet. Elle a dit, à un moment donné, ça vient peut-être de moi. Alors, en fait, je me dis, alors je ne vais pas être dans des sphères philosophiques, hein, je vais plutôt être dans des sphères sociales, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous ne rencontrez jamais quelqu'un dans la rue sans qu'il ait des écouteurs ou un portable. Mmh. Donc, je pense que ça doit y faire beaucoup pour cette jeune fille. Et puis, c'est vrai qu'à la fac, il y a souvent ces claniques, hein, je veux dire, les jeunes forment des clans, et puis ils ne s'ouvrent pas, en fait, à d'autres personnes. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est, mais pour une jeune fille d'origine étrangère qui arrive à la fac d'Orléans, s'il y a un tutorat, s'il y a un comité d'accueil, parce qu'en fait, oui. Voilà, donc je souhaiterais vous dire, en fait, que de ne pas vous sentir coupable, en fait, c'est pas facile aujourd'hui d'entrer en relation, voilà, aussi bien avec les étudiants que d'autres personnes dans la ville.
Peut-être on pourrait relever le problème de la technologie, des réseaux sociaux, etc., des smartphones, de plus en plus souligné, c'est-à-dire effectivement on vit dans une société où les gens se sentent de plus en plus seuls, où il y a un problème de souffrance morale très fort, et en même temps les gens sont de plus en plus avec les écouteurs, donc ils s'isolent d'eux-mêmes, enfin. Et on dit souvent que le lien relationnel direct se perd de plus en plus à cause des écrans. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose d'assez paradoxal, quoi. Hein? Ouais. Mm-hmm.
Je vois par expérience, tous les matins, je vais au bord de la Loire, je vais promener mon chien, et il y a beaucoup de joggeurs.
Ouais.
Et moi, je suis capable de discuter avec un réverbère. Donc les gens avec les trucs au début, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Hein. Mm. Ils ont leur smartphone, leurs écouteurs, leur machin. Puis eux, bah, je fais des sourires et puis je parle. Ils voient bien que je parle. Alors ça les embête. Ils s'arrêtent, ils enlèvent leurs trucs. Et puis, ils finissent par discuter avec moi. Deux ou trois mots, hein, puis ils continuent à parler. Mais tous les jours, je rencontre les mêmes. Et c'est fou le nombre de gens maintenant avec qui j'échange pendant le kilomètre où je promène mon toutou. Parce qu'en réalité, il me semble que l'humain qui se promène comme ça avec ses écouteurs, son machin, en fait, il a envie de communiquer. C'est de sourire, d'échanger, pas forcément des choses intellectuelles ou rien du tout. Il fait beau, il pleut, je ne sais pas quoi. Et ça s'enrichit au fur et à mesure des jours. Et je trouve ça super sympa.
Ouais. Ne pas avoir peur de l'autre.
Bah, il n'y a pas de raison.
Oui.
Moi, je voulais justement poser une question sur qu'est-ce qu'on communique en fait, qu'est-ce qu'on communique à l'autre, parce que avec quelqu'un dans l'ascenseur, on ne va pas forcément se sentir proche de cette personne, on ne saura pas quoi lui dire. Et justement, je voulais prendre comme exemple donc une dame que je connais qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Et elle accueille les personnes pour savoir s'ils vont venir à l'hôpital ou pas. Et elle me disait que c'était passionnant comme métier, mais que en fait à chaque fois les gens qui venaient, c'est un peu comme si elle était la dernière personne au monde et qu'ils racontaient tout ce qu'ils n'arrivaient pas à raconter, notamment leur traumatisme, les choses qu'ils ont, des difficultés, mais vraiment en fait ils se mettent à nu, ils racontent des choses qu'ils peuvent pas, enfin ils sont pas dans ou le paraître ou des conversations un peu conventionnelles qu'on aurait dans certains types de milieux ou quoi. Ils sont vraiment directs, ils sont mis dans une forme de manipulation et tout ça. Et là, je pense qu'ils se sentent moins seuls parce que justement, ils arrivent à exprimer vraiment qui ils sont en termes d'identité et le partager à un autre. Donc peut-être que c'est un moyen, en fait, d'utiliser le langage, c'est peut-être très intellectualisé du coup, mais pour exprimer ce quelque chose de soi et de rentrer en connexion avec l'autre pour justement se sentir un peu moins seul dans sa tête ou quoi, enfin, de ouais, réduire ce sentiment de solitude en partageant. Je pense que c'est comme ça aussi quand on est avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, ou quand on va voir son psy, on exprime quelque chose de purement personnel, et donc voilà, on révèle un petit peu ce qui on est, et ça fait un point.
Et sans tabou.
Et sans tabou, ouais.
Oui, moi je trouve un peu facile.
Ça, c'est mieux. Je trouve c'est une facilité en fait d'accuser l'époque, d'accuser les écrans, d'accuser le mode de vie, d'accuser ceci, cela. Les philosophes ont parlé de la solitude à une époque où il n'y avait pas tout ça. Donc, et madame nous fait bien la preuve que même les joggeurs avec leurs écouteurs, on peut leur parler. Je pense que. Cette façon d'idéaliser une solitude heureuse d'un ancien temps où on parlait aux arbres, aux fourmis et aux oiseaux, c'est un pur fantasme. On est des animaux sociaux, on a besoin d'échanges avec les autres, on est là pour ça d'ailleurs ce soir tous. Et pour pas non plus, je crois, par rapport à ce que nous disait notre amie chinoise, d'une manière générale, minimiser la souffrance. Madame, on a très très bien parlé de la souffrance, de la solitude, quand on la ressent comme une souffrance. Et dire que les artistes sont seuls, c'est pas toujours vrai. Il y a des écoles, il y a des groupes d'artistes, il y a des groupes de musiciens, il y a le Bauhaus, enfin, il y a plein de gens comme ça qui vivent en communauté créative. La communauté elle-même était créative, donc on n'a pas forcément besoin de solitude. De même, le repos peut très bien passer des bons moments de détente et de déconnexion avec d'autres personnes. On peut aller faire une randonnée en montagne, aller faire des choses comme ça qui vont nous faire respirer. Donc je pense que enfin, là, on s'égare un peu quand on quitte le registre qui a été proposé par, si ce n'est pas votre nom, je suis désolé, notre amie chinoise, qui parle de sa douleur et en fait elle voudrait retourner ça en disant finalement et si c'était une opportunité et si je pouvais en faire quelque chose de bien, mais elle ne sait pas comment le faire et c'est pas facile. Voilà. Donc, et puis une chose aussi par rapport à la solitude, on est quand même de plus en plus nombreux sur Terre, donc la probabilité de rencontrer un semblable elle augmente tous les jours de façon exponentielle.
C'est vrai.
Oui, je voulais juste dire que la solitude avait été la grande cause nationale en 2012 et que les études avaient montré qu'il y avait quand même une évolution avec une augmentation de la solitude qui pendant longtemps a été presque exclusivement réservée aux veufs et aux veuves qui avaient perdu un conjoint, alors que maintenant elle gagne absolument tous les âges. Et effectivement, l'étude, alors elle date que j'ai en tête, elle date de 2012, mais il y avait quelque chose comme 30% des jeunes qui se sentaient seuls. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il y a effectivement une augmentation du sentiment de solitude dans la société. Ouais.
Moi, je pensais que le fait de vieillir, de voir partir ses amis, qui se décèdent avant, il y a vraiment d'amener la gage quelque part. Mais ce n'est pas toujours évident de refaire un relationnel puissant, sincère, riche, avec de nouvelles personnes.
Quand on vieillit.
Oui, je pense que les jeunes aussi sont très seuls. Ne serait-ce que les étudiants dans leur petite chambre, etc. Mais je pense qu'il y a une énorme solitude chez les personnes âgées, qui, même si elles veulent sortir de cette solitude, moi j'ai choisi beaucoup de bénévolat, j'ai choisi beaucoup de choses comme ça, mais l'échange, l'amitié d'enfance, on trimballe jusqu'à 75 ans, un beau jour, elle disparaît parce que l'ami est disparu. Enfin, tout ça, bon, son conjoint, il disparaît. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça. Et une solitude riche, c'est pas si évident.
Non. Les problèmes des ruptures posent rupture, séparation.
J'ai la sensation, quand je vois autour de moi, dans le cas de mes voilà, j'en ai des manifs à leur cause, enfin, c'est un tas de machins comme ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a comme personne seule,
ouais.
Et en particulier des femmes. Parce que les hommes, ils ont la manie de partir avant moi.
Donc, ils nous laissent. Oui, monsieur.
Mais je voudrais revenir sur la remarque sur les écouteurs et les gens seuls. Je pense qu'on, enfin, à titre personnel, je pense qu'on fait un peu une erreur. La littérature, il y a plein de romans où les gens ont essayé de trouver des romans qui ont exprimé la solitude absolue. Il n'y avait pas d'écouteurs, mais il y a un autre solitude, il y a toujours une écoute. Et la forme de la société qu'on vit, c'est ça qui change. Donc les écouteurs, aujourd'hui, les gens, ils ont une autre possibilité technologique, c'est d'aller chercher ailleurs et plus facilement d'autres endroits où ils se sentent bien. Il y a eu le cinéma qui a permis de faire ça, on peut aller voir les films qu'on a envie, donc et s'échapper et partager des choses. La musique est aussi un sujet, puis maintenant il y a des nouveaux sujets. On parle beaucoup des métaverses qui sont en fait l'expression de. Bah, il y a eu Donjon Dragon dans les années 80, c'était un jeu où les gens ont une vie de monde, ils s'approuvaient. Ensuite, il y a eu Sin City, grand succès féminin d'ailleurs, avec toutes les versions qu'on existait pour les jeunes filles qui s'inventaient plein de monde. Et maintenant, il y a les métaverses qui permettent d'aller voir où on a envie, on ne prend pas de risque.
Mm-hmm.
Parce que si ça ne plaît pas, il suffit de se suicider et aller créer notre monde. Et puis on.
Moi, la chose est simple.
Mais c'est d'autres formes, c'est d'autres
formes.
Il n'y a pas de contact certes physique, mais en tout cas, l'esprit, puisqu'on parle de la solitude avec les gens dans les choses, l'esprit, il a trouvé d'autres solutions qui sont beaucoup plus connues. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont seuls dans ces cas-là. Donc, je ne suis pas évident qu'il y a plus de solitude maintenant sur toi, c'est parce qu'on voit des gens seuls avec leurs émotions qui sont seuls.
C'est pas sûr qu'il y ait plus de solitude, mais en tout cas, ça se remarque. Quoi. Ah oui. Ah que oui.
C'est pas parce que quelqu'un dit bonjour, on peut lui répondre bonjour, mais on n'est pas obligé d'engager la conversation.
Exactement. Ouais.
Inutile qu'il y avait dans les villages ou dans les marchés, on n'est plus obligé de le faire. Après, elle peut être super sympa. Mais il n'y a plus cette obligation, il y a d'autres formes d'expression. Et les métavers sont en grand développement depuis déjà un certain temps. Parce que c'est une solution pour se retrouver avec d'autres.
Oui. Oui.
Oui, c'était un peu pour nuancer ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est nécessaire. J'ai dit que c'est nécessaire, mais encore une fois, c'est un idéal. Je pense pas que.
Qu'est-ce qui est nécessaire ?
D'accepter la solitude.
D'accord. Oui.
Ça reste un idéal. Je pense que le monsieur tout à l'heure disait qu'on était égoïste. Je pense que justement, on n'arrive pas. C'est plus fort que nous. On n'arrive pas à l'être assez, quoi. On a forcément, moi, j'ai forcément besoin de vous déjà rien pour en vous écoutant, bah. J'arrive à remettre en question ce que je pense et m'approcher de la vérité, c'est ça le but final, quoi. Mais
s'approcher de la vérité ou s'approcher de soi?
Moi, je dis de la vérité. Non, mais... je réfléchis à ce que vous avez dit.
Le fait de partager,
ouais.
Voilà, ça, ouais, ça permet justement de rompre.
Je pense que dans un sens, c'est nécessaire. On a besoin des autres personnes. Du coup, il n'y a aucun mal à ne pas réussir à l'accepter. On n'a pas la solution de toute façon. C'est ce que je voulais dire.
Ouais. Non, c'est bien. Ouais. Oui, madame. Oui.
je voulais dire que ça dépend de la nature de nos gènes. Au départ, il y a des gens qui sont naturellement portés vers les autres, quel que soit l'âge, le pays, tout ça. Et d'autres, au contraire, sont plus, ont déjà fait l'expérience de soi. Je vois des malades, des jeunes, des enfants, ils ont déjà eu des ruptures, et ils ont fait ce chemin que certains vieillards, vieux, n'ont pas fait. Et je pense que ce sont les événements de la vie qui créent cette expérience de soi, qui fait qu'on est bien avec soi et qu'on peut, qu'importe si on est seul, pas seul, riche, pauvre, tout, beau, pas beau, on est bien avec soi-même. Et ça, c'est le prix de tout un travail, un combat. Et s'il y a dans les EHPAD, bon, peut-être des vieilles, des vieux, qui n'ont pas fait leur chemin, il faut attendre des fois 90 ans pour qu'ils aient un truc qui les... Et d'autres, à 15 ans, 14 ans, ils ont... Et ça ne dépend pas qu'on soit en Chine ou même avant Jésus-Christ, la nature. Il y a les gènes, il y a des familles, on ne parle pas, chacun est peut-être heureux.
Mm-hmm. Ouais. Je constate, hein, c'est tout. Ça veut dire qu'être bien avec soi-même serait le résultat d'un cheminement. Voilà, d'un cheminement où petit à petit, certains individus arrivent à se trouver eux-mêmes et donc à vivre avec eux-mêmes.
C'est des événements de la vie. Et les gens qui ont traversé des ruptures, des maladies, ont été obligés de rester dans un lit d'hôpital
ou autre.
Après, ou autre, oui. Et ça devient tout naturel. Et c'est normal aussi que jeune, qu'elle soit chinoise ou pas, c'est pareil. C'est avec elle-même. Elle n'a pas encore fait ce travail, cette expérience. Moi, j'appelle ça l'expérience de soi, la confiance en soi, tout le truc du soi.
Voilà.
Ouais. Je suis pas trop philosophe. Mais c'est c'est une aide. Et on est heureux partout, que ce soit seul, pauvre, riche. C'est ce que je pense.
Ok.
Tu veux dire quelque chose?
Je pense que je réfléchis. Le temps et la langue, c'est notre ami et notre ennemi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce qu'il existe, c'est comme monsieur a dit, c'est comme on est humain, on a la langue. Alors, je pense que c'est le problème de pourquoi les humains sont toujours de douleur. Parce qu'il y a beaucoup de définitions. Dans notre monde, c'est la table, c'est la chaise, et ça, c'est il y a toujours que c'est le problème de langue, parce qu'on définit beaucoup le monde entier, l'univers, on est toujours donné des définitions. Après, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est le temps. Notre vie, c'est passer le temps. Alors comment on doit aménager notre vie, comment on doit passer notre temps. Et le temps, c'est comme l'or, c'est très précieux. Mais aussi, c'est très... Il y a deux aspects. C'est très bon, on doit gagner le temps, mais on doit aussi réfléchir comment passer le temps. Alors, c'est le temps et la langue, c'est le problème des humains.
Comment vivre son rapport au temps.
Oui, temps, et aussi à la langue.
Et à la langue, oui. Oui, oui.
Sans langue, on ne peut pas comprendre le monde, et on ne peut pas transférer, on ne peut pas expliquer notre sentiment.
on ne peut pas réfléchir, on peut pas, il n'y a pas de pensée s'il n'y a pas de langue. Comment on réfléchit, comment on pense sans langue? Il n'y a pas, si il y a ce vide sans langue. N'importe chinois ou français sans langue, sans humain.
Oui.
Je reviens sur ce que disait la dame là, sur le parcours de vie avec l'expérience qu'on se construit, soit à 15 ans, on a une expérience ou pas. Après, on veut y croire ou pas, mais il y a la notion de mémoire transgénérationnelle. Si on refute, on, qui existe. Moi, je donne souvent un exemple quand je le dis. Une pie va créer son nid d'une certaine façon, qui va valoir même que le maire. Personne n'a appris au futur comment on fait le nid. Il y a bien une mémoire transgénérationnelle qui transmet. En fait, les parcours de vie qu'on a eu avant, peut-être donne effectivement cette véracité d'être plus fort ou moins armé en fonction de sa solitude.
Oui, moi je voulais dire qu'il n'y avait pas que la langue pour communiquer, pour échanger. Notamment, je pense à ça parce que quand vous parliez tout à l'heure dans les EHPAD des gens qui n'avaient plus la vue et qui n'avaient plus l'ouïe, enfin la vue ou les oreilles, moi j'ai plus l'ouïe. Enfin, je suis à Paris. Mais je veux dire, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y a le geste, il y a le corps qui permet de communiquer aussi. Et ça, c'est bien parce que c'est abstraction des langues. Si je te fais un sourire, tu vas comprendre, même si tu ne parles pas français. Si je te regarde avec un regard noir, tu vas comprendre aussi que je t'en veux pour quelque chose, parce que je ne sais pas quoi. Enfin. Donc, il n'y a pas que... l'échange, il peut se passer à plein de niveaux différents. Et moi, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à être plus qu'un être social. J'ai beaucoup milité dans ma vie professionnelle, même avant et même encore maintenant, dans un tas de choses, pour avoir des échanges, pour faire avancer des choses. Mais on n'est pas que ça. On est plus que ça, je pense. Et quand je parlais tout à l'heure d'échanger avec un arbre ou échanger avec mon chat ou échanger avec la rivière comme certains Indiens le font, je pense que c'est quelque chose qui est plus vaste que le simple échange social avec un autre être humain en lui parlant et en écoutant ce qu'il me dit. Voilà.
Oui, donc peut-être qu'on peut encore laisser la parole. Madame.
Oui, j'entendais plutôt ce que disait avant vous, monsieur, la dame là, et puis votre amie chinoise, comme tu dis. Sur le cheminement de soi, il peut être fait que si on a des mots à l'intérieur de soi. Il faut
des mots. M-O-T-S
pour pouvoir faire ce cheminement. Pas simplement des échanges, mais des échanges avec soi-même. Il faut avoir les bons mots. Tout le monde ne les a pas.
Oui.
Mais les mots à ma X aussi. Parce que ça crée aussi du soin. Je ne suis pas forcément d'accord avec les mots
MAUX,
parce
qu'il y a des personnes qui... Oui, moi, je voulais dire que, justement, les mots MAUX, ça ne me plaît pas trop qu'on termine en disant que, à la limite, pour arriver à apprivoiser sa solitude et que ça ne soit pas une souffrance, il faudrait avoir forcément souffert. C'est-à-dire que le chemin de vie ne serait que... une résilience par rapport à des choses qu'on aurait éprouvées, qui seraient des choses désagréables, voilà un chemin de croix, et qu'après, du coup, on se connaîtrait suffisamment pour ne pas souffrir de solitude ou pour être bien avec soi-même. Je pense que, j'espère que la condition humaine et le chemin de chacun n'a pas besoin de n'être que souffrance. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui sont bien seuls, peut-être à certains moments, mais pas parce qu'ils ont souffert à un autre moment. Je pense qu'on est quand même fait pour être heureux.
Merci. Mais je constate quand même que les personnes malades, enfin parce que j'ai contact avec les hôpitaux,
ces gens-là ont eu peut-être des mots MAX, mais ils ont fait beaucoup plus vite le chemin. Bon, bah peut-être. Oui. Mais moi, je vis mon expérience. Moi, je constate, hein, je philosophe.
Alors, je ne sais pas, pour conclure, je reviendrai sur cette idée de distinguer solitude choisie, solitude subie, pas nécessairement du reste dans une logique d'isolement réel, hein, l'isolement peut être psychique. Et donc, comment peut-être transformer cette solitude subie en solitude choisie, donc une pauvreté existentielle en une richesse existentielle. Moi, je reviendrai peut-être au début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être humain, c'est naître. Et naître, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est se séparer. Et donc, tout l'apprentissage d'une vie, il me semble, c'est surmonter cette séparation première, originaire, qui fait qu'on a à apprendre à être soi au milieu des autres, mais en même temps, en restant fondamentalement soi-même et à réussir à penser et à trouver ce soi. Qui peut exister tout en ayant besoin d'être relié avec les autres, parce que seul, absolument seul, on peut pas vivre. C'est le cas de l'enfermement. Toutes les pratiques d'enfermement montrent bien qu'effectivement la folie est au bout du chemin, et en même temps on peut se perdre dans les autres. Donc c'est toujours cet équilibre qui va demander un cheminement, qui va demander un travail sur soi, qui va demander de trouver les mots justes pour arriver à se positionner avec les autres, mais aussi et en même temps avec soi. Ça ne veut pas nécessairement dire sans les autres, mais avec soi. Et ce soi-là, des fois, il peut nous échapper. C'est-à-dire, tout d'un coup, lorsque je me retourne vers moi, il y a un vide existentiel, il y a un néant d'être. Voilà. Donc d'où me vient ce soi? Ben, je pense que le soi, si on le cherche trop en attendant qu'il nous soit donné, peut-être qu'on ne le trouvera jamais. C'est-à-dire, le soi, il est aussi l'objet d'une construction personnelle, d'un choix, d'une liberté fondamentale, qui fait aussi qu'on se choisit soi-même dans l'être qu'on veut être. Et c'est là où, tout d'un coup, la pratique, le faire, que ce soit artistique, intellectuel ou autre, vient non seulement nourrir, mais vient véritablement bâtir l'être que l'on veut être dans une logique d'estime de soi. Voilà. Et à partir de là, effectivement, il me semble que la relation aux autres est alors possible, parce que la relation à soi, elle est construite. Mais je pense qu'elle n'est jamais donnée, elle n'est jamais finie. C'est-à-dire que c'est un travail perpétuel, c'est un équilibre extrêmement précaire que certaines circonstances, la maladie, la vieillesse, le handicap, le déracinement, l'exil, parce que je pense que les exilés, les migrants qui sont contraints de partir de chez eux, qui vivent dans des conditions pas possibles, ressentent cette solitude d'une façon incroyable. Enfin, voilà, il y a quelque chose de ça. Donc, effectivement, l'humanité, il me semble, se construit à partir d'eux, et autour de cette solitude, non pas pour la nier, non pas pour faire comme si elle n'existait pas, le divertissement pascalien, mais pour la prendre en considération, pour parvenir à en faire quelque chose. Mais c'est possible que si le collectif le permet. Voilà. Seul, on ne se bâtit pas seul. Voilà. Il faut des conditions politiques, sociales, amicales, humaines, relationnelles, qui puissent nous permettre d'être indépendants, mais au milieu des autres. Voilà. Merci. Alors, comme le rappelait Marie-France, pour lutter contre la solitude, nous avons la convivialité. Et la convivialité, ça passe aussi par le corps, Donc, vous avez des petites choses à grignoter et puis vous avez quelques bouteilles à boire, il me semble. Donc, votre billet vous y donne droit. Donc, n'hésitez pas à venir partager quelques nourritures terrestres en notre compagnie. Merci beaucoup.
Je sais que vous êtes bavarde.
Ah oui, oui, moi-même.
Voilà, je ne suis pas un réverbère, mais je peux vous le faire.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.